Nous sommes en direct de Bagneux sur le festival de Zone Franche avec Jérôme Noirez. Donc Jérôme Noirez, pour qui nous avons lu deux livres, donc dont nous avons lu deux livres, qui sont Fleurs de Dragon et sa suite Le Shogun de l'Ombre. Donc on va attaquer directement avec les questions.
Bonjour Jérôme Noirez, donc on va passer à la première question. D'où vous est venue l'idée de cette série mettant en scène un enquêteur dans le Japon médiéval ? Pourquoi cette période ?
Bon, alors d'abord, il faut dire que on est venu me chercher. Alors, on m'a demandé d'écrire un polar historique, deux genres dans lesquels j'avais jamais écrit. Je ne suis pas particulièrement ni lecteur de polar, ni lecteur de romans historiques. Et il s'avère que je connais très bien la culture japonaise, que c'est une passion de longue date. Et donc, naturellement, j'ai dit, bon, on va faire un polar historique dans le Japon médiéval que je connais bien. Et puis, bon, bah, l'enquêteur est venu naturellement de lui-même, un petit peu inspiré par certains personnages du cinéma des années 70, du cinéma japonais des années 70.
Donc, tu nous expliques que tu es intéressé par le Japon médiéval. Est-ce que le Japon moderne t'intéresse au même titre ?
Oui, totalement. Moi, je suis intéressé par la culture japonaise de manière générale. Donc, que ce soit le Japon médiéval, le Japon contemporain, le Japon très ancien, pré-bouddhiste, etc. Tous les aspects m'intéressent, oui.
Alors, les deux romans sont abondamment documentés. Alors, vous êtes parvenu à rendre crédible un univers et une culture différentes, justement. Comment avez-vous procédé ? Est-ce que ça vous a posé problème lors de l'écriture des romans de mettre en place cette culture ?
Alors la documentation sur ce type de romans qui sont des romans historiques, c'est pas de la fantaisie, donc on essaye d'inventer le moins de choses possible. C'est toujours très difficile, il y a un gros travail de documentation sur ces deux romans, c'est-à-dire qu'il y a autant de travail de documentation que de travail d'écriture, voire même plus. Mais il s'avère qu'au cours des ans, j'ai élaboré une bibliothèque, donc j'ai ma documentation à demeure, mais j'ai eu des problèmes de documentation constants que je n'avais pas prévu à l'origine. En général, quand on travaille comme ça, il y a une première phase où on va chercher dans la documentation ce qui va potentiellement nous servir dans le récit. Et puis, à fur et à mesure qu'on écrit le récit, on tombe sur des problématiques auxquelles on n'avait pas pensé. Et parfois, on s'arrache les cheveux. Et c'est arrivé très souvent sur les deux romans.
Alors, tu nous parles de l'aspect documentation. Un autre aspect, l'aspect poésie, m'intéresse, puisque dans le deuxième volume, tu parles d'un tanka inachevé qui va être là, présent pendant tout le texte. Est-ce que tu écris toi-même de la poésie ?
Non. Alors, j'ai jamais écrit de poésie. La poésie, c'est-à-dire soit c'est génial, soit c'est à chier. Ne sachant pas si j'arriverai à faire de la poésie géniale, risquant de faire de la poésie à chier, j'évite de faire de la poésie. Toutefois, dans mes romans, il m'est arrivé effectivement d'écrire des chansons. Dans Ferry pour les ténèbres, il y a plusieurs chansons écrites sur un mode, sur le mode des traditions d'oc, des troubadours ou des trouvères. Et puis effectivement il y a des références à la poésie japonaise que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément dans le Shogun de l'Ombre.
En ce qui concerne les personnages, vos héros ont tous des caractères bien trempés. Vous avez dit plus tôt que les films japonais vous avaient beaucoup inspiré. Est-ce que vous avez eu d'autres sources d'inspiration pour vos personnages ?
Alors en l'occurrence, les personnages, ces romans ont été écrits à destination d'un public adolescent. Donc c'est vrai que j'ai travaillé sur des personnages qui sont assez typés, voire même archétypaux, même s'ils se complexifient et se développent au fur et à mesure, en particulier dans le deuxième tome. Mais c'est vrai que je pense, ma référence première, ça reste ce cinéma totalement déjanté qui a été développé dans les années 70 au Japon, qui est un cinéma quasi contestataire, un cinéma souvent marqué à gauche, à l'extrême gauche, très politisé. En particulier le personnage de l'enquêteur, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma japonais, je me suis très ouvertement inspiré, il y a beaucoup de clins d'œil à un personnage qui s'appelle Hanzo, qui est un personnage récurrent d'une série de films particulièrement déjantés, bizarres et déviants des années 70.
Et le fait que cet enquêteur soit pacifiste et renoncé à l'épée, c'est quelque chose qui fait partie de l'archétype ou c'est un choix de ta part, c'est un message de pacifisme ?
Non, alors, je ne suis pas très auteur à message, donc le message de pacifisme, non, pas du tout. Oui, c'était un choix. Ça me paraissait intéressant tout de même d'avoir, comme je savais que j'allais être amené à décrire des choses très violentes, ça me paraissait intéressant quand même, comme je m'adressais aussi aux ados, qui est un petit peu une méditation sur la violence, et un personnage qui a renoncé dans un univers qui est un univers extrêmement violent, ou en tout cas le guerrier est une figure fondamentale, un personnage ayant renoncé au sabre, même si c'est certainement très anachronique et historiquement quand même assez peu crédible. C'est pas un personnage dénué de violence d'ailleurs, hein. C'est pas un non-violent. Il a renoncé au sabre, hein, mais quand il doit défoncer une gueule, il le fait, hein. Hanzo, lui, était un personnage terriblement violent, par contre.
Donc, justement, pour en revenir à ces influences de la culture japonaise, pour le Shogun de l'ombre, on sent la structure du théâtre no qui est vraiment très présente. Est-ce que c'était difficile à rendre, justement, dans le cadre d'une enquête policière ?
Alors, en l'occurrence, dans le Shogun de l'ombre, effectivement, j'ai clairement emprunté la structure du no. Pour l'écrire, sans compter toutes les références nombreuses à cette forme théâtrale. J'ai déjà oublié la question qu'on vient de me poser. Si quelqu'un peut me la souffler dans l'oreille. Est-ce que c'était difficile à rendre ? Non, parce que finalement, la structure du no, c'est aussi une structure qu'on retrouve pour partie dans le théâtre occidental. C'est une structure de narration qui fonctionne très bien. Et puis il s'avère que le no, je connais assez bien, avec les limites évidemment de ma culture qui me laisse toujours un petit peu à l'extérieur de quelque chose d'un genre qui est quand même vraiment extrêmement particulier. Si vous avez jamais vu de pièces de no, si vous avez l'occasion, voyez une pièce de no parce que c'est une expérience quand même tout à fait particulière. Mais on peut pas dire que ça ait été une difficulté, non.
Juste un petit ajout par rapport à ça. Donc, est-ce que vous aimez le no ? Est-ce que vous préférez, par exemple, le kabuki comme genre théâtral japonais ?
Alors, il faut distinguer le no interprété et le no comme objet littéraire. Moi, j'aime beaucoup le no comme objet littéraire. J'aime beaucoup aussi le no interprété parce qu'il y a une sorte de d'économie de moyens extraordinaire. Là où le kabuki va jouer sur des choses un petit peu plus débridées, puis c'est plus tardif le kabuki, mais j'adore aussi le kabuki.
On a parlé de tout un tas de passions, alors nous sommes renseignés, nous savons que tu es aussi musicien. Est-ce que le biwa fait partie de tes instruments ?
Non, le biwa ne fait pas partie de mes instruments, quoique ça m'amuserait un jour d'en gratter un. C'est un instrument très, très particulier, avec une sonorité tout à fait étrange. Et puis surtout, son usage est très, très particulier, parce qu'il y a un instrument qui est un peu son équivalent populaire, qui est le shamisen, qui lui est joué même dans le rock. Maintenant, il y a des shamisen électrifiés. Le biwa, lui, reste un instrument à connotation religieuse, aussi à connotation épique, parce que ça sert à transmettre des récits épiques. Mais hélas, je ne joue pas de biwa.
Est-ce que tu as écouté de la musique pendant l'écriture de ces deux textes ?
Alors, je n'écoute jamais de musique quand j'écris. Si j'écoutais de la musique, je serais incapable d'écrire, parce qu'on fait l'un ou l'autre. Je suis incapable de faire les deux. Les gens qui mettent de la musique en écrivant, moi, ça ne m'est pas totalement. Par contre, je me suis payé de bonnes auditions et de biwa et de no et de flûte sakuashi entre les périodes d'écriture, oui.
Donc on va passer à autre chose que la musique, mais est-ce que justement je vais en revenir en partie aussi, mais les scènes d'action sont vraiment très visuelles, très réussies. Alors, je pense qu'on sent l'influence du film, mais est-ce que la musique aussi a un peu joué dans cette espèce d'explosion d'action?
Alors, je ne sais pas si la musique a joué, c'est-à-dire la musique comme effet, comme procédant de l'épique, éveillant l'épique. Non, bon, parce qu'on ne peut pas dire en plus que les genres musicaux que j'ai cités soient particulièrement propices à l'épique. Et c'est vrai que la référence principale pour les combats, ça reste quand même le cinéma. Je me suis documenté, hein, j'ai lu des traités d'escrime japonaise, j'ai même acheté un katana et je me suis même blessé avec pour voir ce que ça faisait, sans faire exprès, hein, mais ça coupe, c'est très coupant. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir des scènes de combat qui aient cette dimension un petit peu cinématographique, tout tout en essayant de faire en sorte qu'elle conserve un réalisme. Ce que fait d'ailleurs le cinéma japonais, qui se distingue beaucoup du cinéma chinois au niveau de ces scènes de combat et de ces scènes d'action.
Donc, alors on va passer plus particulièrement à l'écriture pour la jeunesse. Est-ce que ça demande est-ce que ça a des contraintes, est-ce que ça impose des contraintes particulières? Et je voulais aussi revenir sur un petit point, c'est le rapport au deuil, le traitement du deuil notamment dans le Shogun de l'ombre. Est-ce que ça pose problème par rapport au public ou...
Il s'avère que, en fin de compte, dans la littérature jeunesse, ado, et en tout cas avec les éditeurs, en ce qui concerne les éditeurs avec lesquels je travaille, je ne connais pas de limite. On ne m'impose pas de limite. Le deuil est un sujet pertinent et très intéressant, je pense, pour un jeune lecteur. Donc non, ça n'a pas posé de problème particulier. Je me suis pas spécialement bridé. C'est vrai qu'on a des limites. Naturellement, on sait, on a au moins un petit peu dans la tête, on sait à qui on va s'adresser. Donc il y a assez peu de scènes de fist fucking, mais par ailleurs, la parole, elle est très libre. La violence aussi, la sexualité, les relations amoureuses. Dans le Shogun de l'ombre, je décris quand même une relation sentimentale qui est particulièrement tordue et effrayante, mais qui reste néanmoins une vraie histoire d'amour. Donc voilà, je ne ressens pas de limite due au genre.
Tu n'es donc pas étonné de la réédition de Fleurs de Dragon dans une collection qui n'affiche pas du tout jeunesse? C'est quand même juste fantasy.
Non, ça m'étonne pas parce que de toute façon, il y a une perméabilité croissante, c'est-à-dire les adultes vont aussi lire la littérature jeunesse qui est quand même sortie depuis pas mal de temps du schéma Club des Cinq. J'étais un peu plus étonné finalement de retrouver Fleurs de Dragon non dans une collection adulte mais dans une collection estampillée fantasy, parce que d'un point de vue strict, c'est pas de la fantasy puisqu'on est dans de l'historique, mais c'est pas moi qui m'en plaindrais. Hein.
Pour conclure cette interview, alors, quels sont vos projets? Est-ce qu'il y aura d'autres livres mettant en scène le Japon?
Alors d'autres livres mettant en scène le Japon, certainement. Des suites à Fleurs de Dragon et au Shogun de l'Ombre, je n'en suis pas sûr. Ça va dépendre de mon envie. J'ai pas envie de tirer à la ligne sur ce sujet. Et puis, pour ce qui est des projets à court terme, bon, il y a un roman qui va sortir chez Mango au mois d'avril, en grand format, qui s'appelle La Dernière Flèche, qui est une variation personnelle sur le mythe de Robin des Bois, très revisité, à ma sauce. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses en projet du côté de chez Kalman Levy. On en reparlera.
Et du policier, peut-être? Ça t'a pas donné envie d'écrire du policier?
Du policier, non, pas du tout. Moi, enfin, le schéma enquête policière ça, ou mystère policier, ça m'emmerde. Donc, ça m'intéresse pas particulièrement. Par contre, de ce qu'on pourrait appeler plus généralement du thriller, oui, j'en écrirai certainement. Mais ça a un sens tellement large que, à partir du moment où on a un suspense, on est dans le thriller.
Bien, merci Jérôme Noirez, et ben, on va vous laisser vaquer à votre festival. À bientôt.
À bientôt.